Disse as brave munda pres lo flash info de Rádio País, lumié de jornal continha exercícios, rádio lingodó am Luca Dulac a la técnico e eu la dizelo, ambos outros fins a unuro. Lissabés na outra sem forço am Rádio País, Rádio Occitaninho, Rádio Albidjes, Rádio Nissa Pantai, Rádio Entre Duas Mars e Mai, Rádio Cultura do Brasil. A Montpellier, Ludeval é seta milhão, Mendes, Santa Frico, Suslabando, Efoemo. De las portas de Carcassuno, Capaurosa, Suslabando Numerico e de Impertute Susla Planeta, Suicite, www.radiolengodó.com. Fenos, homens, pitunos e pitus docucianas, e o ex Ludilus, Ludus de outubro de 2023, que no mês de outubro se olhou pra bem gut, e lá não começar. Em parlant de dictatura militar din l'América del Sud, Elvira Dias, ela que é realizatriz, e nos falará de seus três filmes aqui, alentun de la dictatura militar ao Chile, e também aqui de sa vida de filho de refugiat, de exilat politique, aqui, Plalo Bundjun. Bonjour, hola, que tal, Elvira Dias?
Hola, Gisèle, bonjour.
Bonjour, Elvira, comment vas-tu?
Je vais bien, c'était un peu la course pour vous trouver. Justement, sur le chemin, je me disais, tiens, c'est marrant cette histoire de GPS, de où je vais, d'où je viens.
Ah ouais, t'as un GPS qui est intercontinental.
C'est ça.
Elvira, tu nous raconteras un peu cette histoire, l'intervalle d'un plateau radio. Nous intéressons énormément à la question de la dictature militaire au Chili. La presse française en a beaucoup parlé dernièrement, puisque nous sommes dans la commémoration des 50 ans de cette dictature qui a été vraiment marquante par sa violence, comme toutes les dictatures, bien sûr, parce que c'était une longue période néfaste et qu'on en trouve encore ses marques jusqu'aujourd'hui dans la société.
Ben oui, complètement. Aujourd'hui, on est même dans l'écho direct. Je dirais même on n'est pas du tout sorti de l'ombre de ces 17 années de dictature. On n'est que dans un prolongement, en fait. Même si sur le papier, on est en démocratie, rien que comment est, j'allais dire, constitué, en plus avec tout ce qui se passe autour de la Constitution, en ce moment, qui est encore celle de Pinochet, écrite à la pointe de la baïonnette, quoi. Dans les années 80, on est directement, en fait, dans la continuité, quoi. Pardon.
C'est impressionnant comme il y a un fort attachement, justement, à ces valeurs, une partie de la société, en tout cas.
Le Chili est complètement coupé en deux, en fait. Il y a la moitié de la population est encore complètement fidèle et regrette même le dictateur, oui. Oui, c'est le fascisme est encore vivant. Actif.
Elvira, on t'invite de nous raconter, ça passe aussi par ton ressentir de fille d'exilée politique. Tu nous raconteras aussi en musique un petit peu cette trajectoire. Tu nous as choisi trois titres pour illustrer un peu l'intervalle de ces plateaux. De qui nous parlent ces chansons?
Alors j'en ai choisi trois, en fait, qui... Quand j'étais enfant, en fait, mon père et son grand frère Porfirio sont arrivés en janvier 74 à Paris. Et ensuite, à Besançon, en fait, ils se sont installés après. Ils ont fait venir petit à petit le reste de la famille. Et entre frères et sœurs, ils ont monté deux groupes de musique. Ayacara, du nom de la rue familiale, et Retamo, du nom de l'arbre fleuri qu'il y avait devant la maison. Et ils ont joué... j'ai envie de dire, j'imagine, j'étais petite, mais des centaines de concerts pour récolter en fait les bénéfices étaient envoyés au Chili aux familles des prisonniers politiques. Et donc ce sont des compositions qui parlent avec nostalgie, rancœur, espoir, enfin c'est vraiment toutes les tripes familiales, mais en fait c'est un peu comme pour mes films, je trouve que les chansons familiales, quand elles parlent comme ça de coupure à ses racines, ou de, enfin quand c'est très intime, ça devient très universel, donc dans les paroles que j'ai, dans les morceaux que j'ai choisis, les paroles sont de mon oncle et ce qui appartient à la famille un peu appartient à tous quoi. C'est un petit peu comme ça aussi que j'ai fait mes films. Donc je sais pas ce qu'on écoutera en premier, mais voilà, je vous ai amené. Et du coup, oui, ce sont aussi les musiques de mon premier film qui s'appelle I Volveré. Et c'était sur le premier retour au Chili de mon oncle après 30 ans d'exil. Je l'ai filmé pendant 3 mois et demi. Et les musiques du film ne sont que des morceaux de ses compositions familiales. Voilà.
Elvira, tu nous raconteras aussi, puisque dernièrement, tu participes à de nombreuses soirées autour de la dictature. Tu nous raconteras un peu tout ça pendant ces plateaux. On te remercie encore pour cette participation ici au micro des radios Lingadoc. Notre passerelle suppique à une tierce d'actualité. On passe aux actualités et on revient tout de suite pour continuer cette charadisso à l'entour du travail de la réalisatrice Elvira Diaz. Lo dimarts 3 d'octobre, a partir de 6 euros del vespre, lo Departament d'Occità de l'Universitat Pau Valéry vos convido per un seminari réseau amb Rosine Milin. Ela parla de l'imposició del francès per l'escola. Aquella és l'una de les més grans mutacions que la Baixa Bretanya ha conegut al segle XX i que és el canviament de la llengua. Qual és estat el rol de l'escola i dels mètodes com el símbol o la vaca? I per què els pobles de les ancianes colonies que són estats obligats d'aprendre el francès per l'aplicació dels mateixos mètodes són continuats al contrari dels bretons, per exemple, de parlar la pròpia llengua. Serà en presencial dins la sala A105, mai també en videoconferència que trobaràs el lligam sur la pàgina Facebook del Departament d'Occità. Una jornada de rescontre per als estudiants a distància és prevista a l'Universitat Pau Valéry, campus Route de Mende, en sala A105, és el bastiment A, primer estadi, el 17-21 d'octubre serà un moment de convivialitat per rompre un pau les dificultats de la distància i per rescontrar a totes. A partir de 10 euros i medio, Diana Nombruses. Abdel Bouzbiba, le coneixes ja del grup Dubartas, Lubal Arabok. El vos convido per 3 jornades amb el Teatre de Narbuno per mescladis vertadier en passaire d'històries aquí en aquest mes d'octubre, on el serà acompanyat per Clément Chauvet, Julien Lagrange i Emmanuel Massar. De tornar a trobar totes aquelles informacions directament sur site del Teatre de Narbuno. És un polit concert aquí que mesclarà les cançons en llengua arabo, en llengua occitano, mai també d'altres univers ja presentats. Lo dijous 5 d'octubre a Bizanet, lo dissabte a la Scena Nacional de Narbuno e lo dimenge 8 a Treios, aquí per trobar aquel concert, també mai d'informació sul site del Teatre de Narbuno. Elvira Diaz, on va continuer. Quel était ton premier film autour du thème de la dictature militaire?
Bah, c'est celui-là avec mon oncle quand on est parti ensemble et avec ma cousine Amalia aussi, sa fille. sur les traces en fait de son histoire où il a eu un accident qui lui a coûté la vie. Un an, la vie, la vue. J'ai dit la vie ?
Oui.
La... Ben, en même temps, il y a eu comme un
c'est
passage.
C'est un lapsus et... ouais, important. Voilà.
Oui, oui, la fin de... Oui. D'une première vie, et puis d'une vie qu'il avait rêvée aussi, en fait, puisqu'il a perdu la vie, la vue, dans un... En fait, il s'entraînait militairement, en fait, dans un cabanon sur la plage, à côté de Valparaíso, avec des amis, parce qu'il sentait très fort qu'un coup d'État allait arriver au Chili. Donc, ils avaient piqué des armes, et ils avaient piqué de la dynamite dans des mines, et tout ça, pour s'entraîner, pour préparer une résistance.
Il avait quel âge ?
24.
Il était...
23.
Oui.
Oui.
Jeune universitaire.
Oui, c'est ça. Il était étudiant. Et c'était un groupuscule, mais vraiment des têtes brûlées, prêts à donner leur vie pour l'homme nouveau. Ils étaient dans un courant trotskiste, vraiment... Enfin, voilà, vraiment... prêts à se défendre, quoi. Voilà, à croire à la révolution. Et ce qui s'est passé, c'est que lors d'une séance d'entraînement, d'apprentissage, il y a eu une fausse manipulation, il y a eu une erreur de manipulation, et il y a eu toute une table pleine de détonateurs, en fait, qui ont pété. Heureusement, la dynamite n'a pas pété. Ce qui fait ce qui est un peu fou et fort, c'est qu'il a été, en fait, jugé, emprisonné, et comme en tant que terroriste, mais sous Allende. Donc, c'est... Quand je dis il a perdu la vue, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait programmé, et tout, enfin voilà, ça a été la fin d'une première vie. Et en fait, quand est arrivé le coup d'État, en fait, il a été libéré, parce que malgré tout, c'est un accident. Malgré tout, c'est un accident.
Ça a été prouvé ?
Oui. Et malgré tout, il a été libéré, mais quand est arrivé évidemment le coup d'État, comme il était fiché, il faisait partie d'une liste des personnes à abattre à vue. À vue, pour le coup. Et en fait, il a des amis à lui qui étaient déjà réfugiés dans l'ambassade de France sont allés le faire chercher, lui, sa femme, qui s'appelait Luz, et ma cousine Amalia, qui n'avait qu'un mois au moment du coup d'État. Et donc, ils ont été réfugiés dans l'ambassade de France. Et il revient sur cette histoire, en fait, sur justement toute cette vie qu'il n'a pas pu mener de révolutionnaire, de résistant. Et il revient en arrière sur le combat qu'il n'a pas pu mener, quoi. Malgré tout, comme je disais, il a en France toujours été militant, actif, tout ça. Mais c'était pas la vie qu'il avait rêvé. Puis il avait perdu la vue. Donc il revient... aveugle, voir le Chili. Et moi, j'accompagne donc ma cousine et lui. Elle le guide, il met la main sur son épaule. Et pendant 3 mois et demi, j'ai filmé son retour sur les lieux de l'accident, le retour au quartier, le retour à la maison. Et c'est pas facile, quoi, parce que revenir, c'est pas retrouver ce qui reste. C'était surtout pour lui, comme il disait, compter les morts et voir tout ce qu'il n'y a plus et qui n'a jamais pu être et qui n'a pas été, c'est-à-dire tous les rêves d'un monde nouveau, quoi.
La France a eu un rôle important, prépondérant, on va dire, lors de ces coups d'État, Elvira.
Au niveau de l'accueil des réfugiés politiques, oui, il y a eu une solidarité immense, et je le vois quand je fais des projections. La moitié du public, souvent, ce sont des gens qui étaient assez jeunes à cette époque-là, des étudiants, tout ça, qui se souviennent d'une solidarité, d'un accueil incroyable. En fait, il y avait eu des appels à la solidarité, et il y avait eu plus de 300 comités d'accueil en France, particulièrement évidemment chez les villes, parmi les villes communistes. Et il y avait eu un accueil très 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 chaleureux, des Chiliens qui arrivaient par avion dans l'urgence. Enfin, puis évidemment, comme on le sait, c'était une époque où la France accueillait, ouais. Il y a eu un élan de générosité, de solidarité énorme. C'est vraiment je le sais du point de vue de l'histoire, mais c'est vraiment ce qu'on me raconte et ce qui ressort, quoi, des témoignages directs quand je présente mes films.
Et on les sent encore aujourd'hui, cet attachement des Français et des Françaises, justement, à cet accueil, à cet engagement politique et humaniste.
Oui, enfin, moi, je le vois dans les gens qui viennent dans le public et qui me parlent, beaucoup encore les larmes aux yeux et me racontent. Il y a là, j'ai eu un témoignage assez touchant la semaine dernière lors d'une projection. Une dame m'a dit, mais c'était tellement beau, tellement fort. Elle dit, c'était la première fois que c'était le réveil d'une conscience politique qu'on n'avait pas, parce qu'elle dit, on était des gamins. Et elle dit, là, d'un coup, c'était tellement important dans les lycées, les facs, tout ça, il fallait se positionner. C'était d'un coup, je me positionne contre la dictature. On a été choqués par les images du bombardement, et tous se souviennent des marches et tout ça. Bon, évidemment, le public qui vient à mes films, c'est un public qui a un fort intérêt pour ça, mais ceux qui l'ont vécu avec les tripes, ils le vivent encore avec les tripes quand ils viennent voir mes films. Enfin, vraiment, ça vibre encore quoi, quand ils en parlent.
La dictature militaire au Chili, elle est arrivée quelques années plus tard que la dictature militaire au Brésil. Le coup d'État au Brésil, il s'est passé en 64, et puis celle au Chili en 73. La France, déjà, pour les exilés politiques brésiliens, elle avait ouvert ses portes aussi, elle avait fait l'accueil justement de ces exilés politiques, Elvira. Et par rapport au Chili, du coup, il y a toute une partie de ta famille qui est venue vivre en France.
Oui, quasiment tout le monde, hormis quelques cousins, cousines, familles un peu éloignées, mais la fratrie directe de mon père et son frère, ils sont tous venus, oui.
Et du coup, il existe toute une communauté. On peut parler plus précisément de la ville de Montpellier, puisque on a eu déjà l'occasion de recevoir un groupe de femmes, des filles, des exilés justement chiliens. Les Sudacas, il y a tout un groupe ici, et en réalité, il y a une suite de la vie de ces exilés. C'est que cette conscience politique, elle ne s'est jamais arrêtée, même sur les nouvelles générations.
Ouais, ça dépend des familles, parce qu'il y a des familles où le traumatisme est tel que l'histoire n'a pas été transmise, elle a plutôt été tue. Mais ça me surprend pas, c'est pas une volonté d'oubli, c'est le traumatisme qui prend le dessus et c'est dur de transmettre. Moi, dans mon cas, ma famille a vraiment fait un travail de transcendance, je pense par la musique, les arts, enfin, il y a beaucoup, ils sont tous artistes, et je pense qu'il y a eu cette expression sans exprimer directement à ses propres enfants, où ça a été exprimé au collectif, ben, par des concerts, voilà, par des, enfin, pas mal d'activités artistiques, et du coup on a reçu, on a épongé, on a compris, on a chacun, tous les cousins cousines qu'on est, on a pris ces messages là mais c'est pas le cas forcément dans toutes les familles. Moi, j'ai discuté avec des gens de ma génération qui m'ont dit, mais moi, mes parents m'ont jamais rien raconté. Je sais qu'ils ont été emprisonnés, torturés, mais c'est impossible d'en parler. Mais pour autant, ben, on éponge au moins les émotions, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'à Montpellier, il y a à chaque fois qu'on organise avec mon père et les copains chiliens, quand on a organisé une dizaine de soirées de soutien en fait à l'estaïde ou à la révolte sociale, qu'on a fait des concerts pour récolter de l'argent pour envoyer à la première ligne, c'était que des jeunes. J'étais presque la plus vieille. Moi, je suis née en 75. Et il y avait plein de gens qui avaient 25-30 ans et qui étaient très engagés, très au courant, très investis, dynamiques. Et oui, ça transpire encore. C'est vivant, quoi. C'est pas derrière, quoi. De toute façon, la dictature et le traumatisme de la dictature, il est loin derrière pour ceux qui ne l'ont pas vécu ou qui veulent l'oublier. Mais pour ceux qui l'ont vécu ou qui le portent encore, c'est hier, en fait. Ça fond pas dans le temps, ce genre de choses.
Elvira, du coup, dans ton premier film, tu nous racontes l'histoire de ton oncle, Porfirio Diaz. Ensuite, tu nous racontes l'histoire d'un artiste, justement, qui est disparu lors de la dictature.
Oui, alors plus que de raconter l'histoire de Victor Jara, qui est un chanteur qui était du coup très proche, enfin communiste, et très proche soutien de Salvador Allende pendant sa campagne, qui est là-bas extrêmement connu. Oui, il a été assassiné. Il a fait partie des premières victimes juste après le bombardement du palais présidentiel. Il a fait partie de ceux qui ont été raflés en premier. Le film, le deuxième film que j'ai fait, qui s'appelle Victor Jara, numéro 2547, et pas tant sur lui, mais sur la personne qui lui a donné une sépulture. Parce qu'au Chili, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de procès, il reste encore plus de 1000 personnes disparues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire en fait, de 48 heures où Hector, un ami de la famille, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré par mon père, il tenait un restaurant à Nîmes. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont allés dans un restaurant chilien, El Rinconcito.
Nous sommes sur Nîmes, oui, sur la bande numérique. Oui.
Bon, maintenant, il est à la retraite, mais il a tenu pendant 35 ans ce restaurant dans les rues piétonnes de Nîmes. Ce monsieur, en fait, qui est un super copain, hein, on est vraiment très très amis, c'est ce film qui nous a rapprochés, ça c'est sûr, a accepté de me confier son histoire. Il m'a dit « tu vas servir d'antenne pour que mon histoire, ce que j'ai vécu à ce moment-là, soit partagé à tous ». Et ce qu'il a vécu, c'est que c'était un jeune homme de 22 ans qui était en fait simple employé à l'état civil. Son boulot était de prendre les empreintes et il était dans les bureaux pour faire les premiers papiers d'identité, carte d'identité, passeport à des bébés, des ados la plupart du temps. Et il a été réquisitionné par l'armée. Donc d'un coup, on a dit toi, dans le camion. Et en fait, il a été réquisitionné pour trier les corps à la morgue. À la morgue donc, centrale de Santiago, et pour prendre les empreintes. Alors, c'est là où on commence à entrer dans le chaos et l'incohérence, parce qu'on cherche à faire disparaître des gens tout en leur prenant les empreintes, et par des gens qui ne sont pas du tout formés pour ça. Hector n'avait jamais vu un cadavre de sa vie, donc il s'est retrouvé au milieu de centaines de cadavres empilés dans le chaos, qui a été ramassé à la sortie des stades, qui a été ramassé dans la rue, ramassé dans le Rio Mapocho, dans le fleuve qui traverse Santiago, enfin bon, dans des états déplorables. Voilà, ça a été vraiment ultra traumatisant. Et en fait, il y a un collègue à lui qui a reconnu le chanteur Victor Jara parmi les cadavres. Donc ce qu'il a fait, c'est que spontanément, comme il voyait bien que toutes ces personnes étaient anonymes et que c'était un chaos, ce n'était que des anonymes empilés les uns sur les autres, c'était la seule personne qu'il a reconnue, donc il a en 48 heures réussi étonnamment, administrativement, légalement, à lui donner une sépulture au nez et à la barbe des militaires qui le surveillaient. Tout ça de façon très maligne, spontanée, sans même réaliser qu'il était en train de réaliser un des plus symboliques actes de résistance qui en fait a permis aussi jusqu'à aujourd'hui que le procès soit ouvert. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de procès. Donc donc c'est cette histoire qui court encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce film que j'ai fait avec lui, en fait, c'est ces 48 heures-là où il raconte, on retourne sur les lieux et il raconte tout le processus pendant 48 heures, le processus administratif.
Vous êtes allé au Chili ?
Oui, oui.
Ah, waouh !
Avec lui, oui. On est allé à l'état civil, on est allé à la morgue, au cimetière, et en fait, on retourne étape par étape sur la façon dont il est à chaque fois passé entre les gouttes et qu'il a réussi à restituer le corps de Victor Jara à son épouse et jusqu'à lui donner une sépulture.
Elvira, c'est impressionnant tous les parcours que tu as faits, les parcours au pluriel, pour pouvoir donner vie à tes films et pouvoir donner la voix à ces personnes tellement liées à ces moments si néfastes de la vie de ce pays nous sommes tous très attachés. La dictature d'Augusto Pinochet est marquée par des multiples violations des droits humains. Ce sont plus de 3200 morts et disparus, plus de 38 000 torturés, des dizaines de milliers d'arrestations des dissidents, lesquels ont fait l'objet de 3 rapports et des 4 procédures judiciaires dans les années 90 et 2000. Mais les responsables, ils sont en prison, Elvira ?
Les responsables de la mort de Victor Jara ? Oui, alors il y a eu des centaines d'arrestations, des centaines de procès même aboutis, sauf qu'il faut savoir que les agents de la junte ont le droit à une prison particulière qui a été mise en place évidemment par les associés du dictateur. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, franchement. Penta Peuco. En deux mots, Penta Peuco. Prison de luxe avec piscine, terrain de tennis, des appartements particuliers où ils ont pu pendant des années recevoir leur famille avec balancelle, barbecue, voilà, des prisons de luxe. Et ils ont gardé aussi leur pension militaire à vie pour des montants qui peuvent monter jusqu'à 20 000 euros par mois. Voilà la justice chilienne, en fait, qui est constituée, l'appareil judiciaire est constitué encore à moitié de fidèles au dictateur. Donc la constitution étant encore en place, voilà le confort qu'on donne à ces gens-là. Il y en a même, alors là c'est plus trop le cas, mais il y a quelques années encore, il y avait des anciens agents de la junte qui étaient photographiés dans les parcs, en train de se promener avec leur famille dans les malls, enfin bon, voilà, qui carrément avaient des possibilités de sortie, quoi.
Et lui, donc,
il y a plein de procès en cours. Il y a, des centaines de procès en cours, mais la justice est très, 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 très lente. Mais le président actuel, Boric, qui est un président de gauche, a quand même annoncé, là, au mois d'août, il a mis en place un plan de búsqueda, un plan de recherche. C'est-à-dire qu'il va faire, enfin, 50 ans après, faire informatiser toutes les informations de toutes les institutions, tous les commissariats, toutes les associations de prisonniers politiques, essayer de récolter et faire digitaliser, numériser pour faire des recoupements. Il investit aussi de l'argent dans la recherche de charniers, ça a déjà commencé. Mais bon, on est 50 ans après et les mères qui cherchent leur fils, pour beaucoup, sont déjà passées de l'autre côté du voile, on va dire. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui a perdu un proche, c'est jamais résolu quand t'as quelqu'un de disparu, tu guéris pas ça. Et même là, j'ai lu récemment un père, ou c'était un fils. J'ai oublié, peu importe. Il y avait une personne à qui on avait rendu juste quelques petits bouts d'ossements qui avaient été reconnus par ADN. Et il pensait que ça allait résoudre que de savoir que son père avait été dans tel endroit. Et en fait, de récupérer juste quelques grammes d'ossements, il a dit, mais en fait, finalement, mon père n'est toujours pas là. Et en fait, on pense que retrouver, et en fait, non. En fait, c'est encore le début d'une autre absence.
Oui, le début d'une nouvelle souffrance également. Voilà. Parce qu'il n'y aura toujours pas de procès.
Aussi.
Elvire, est-ce que nous pouvons faire une pause musicale?
Bien sûr.
Et découvrir un peu les paroles que ton oncle a pu transmettre ici avec son art pour transcender justement la douleur, la souffrance de cette période néfaste. Et en revenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette tentative justement qu'il y a eu en 2022 d'une nouvelle constitution au Chili?
Mm-hmm.
Oui, on a nommé Que Damas Corazón. Thank you.
negado en aquel lugar. Cuando el pajarito de acero se echó al vuelo por la mitad, no me queda más corazón, lo he dejado en aquel lugar. Cuando el pajarito de acero se echó al vuelo por la mitad.
Non me queda más corazón es un titolo de Porfirio Díaz din lo film I volveré de Elvira Díaz que es a nosotros aquí al plateau de Radio Lengodó onde nesem a parlar de la dictatura militar al Chili que completet 50 anos naqueste 11 de setembro. Elvira, on a accompagné sur l'année de 2019 une grande révolte sociale au Chili. C'était la jeunesse qui débordait, en fait. Je pense que de toute cette oppression qu'il existe dans la société. Tu étais en France ou tu es allée au Chili aussi pour participer de cette révolution?
Les deux.
Les deux.
Quand c'est arrivé, j'étais en France, en fait, le 18 octobre 2019. Il y a eu... comme en France, avec les gilets jaunes, avec la hausse du prix de l'essence. Il y a eu la hausse du ticket de métro.
Oui.
Et ça a pété, en fait. Les étudiants, en fait, symboliquement, enfin, l'image est forte et symbolique, elle est facile à trouver sur Internet aussi, ils ont passé, en fait, les barrières. Et là, ça a pété, quoi. Ça a pété partout, et il y a eu, du coup, une demande de justice qui était tout simplement... l'explosion de finale, enfin finale ou le début aussi de quelque chose, d'une histoire après tant de décennies, toute une histoire entière d'injustice, enfin
des silences aussi,
des siècles d'injustice, oui. L'Amérique latine, tu le sais bien,
la colonisation, voilà. L'imposition, oui,
depuis toujours, oui. Au Chili comme partout dans l'histoire collective transgénérationnelle, dans
on il a cette indignation ancrée dans nos êtres, hein, Elvira.
Ben, il y a une révolte, enfin, de se faire spolier, voler, abuser, enfin, sur sa terre. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très, 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 très fort au Chili. Donc là, ça a été la goutte de trop, quoi. Donc c'est parti, vraiment, il y a eu des combats de rue impressionnants. Et en plus, ça a même réveillé la violence policière qui a toujours été là. Mais alors là, ils s'en sont donnés à cœur joie. L'armée a été dans la rue aussi.
Et... Mais nous étions de ces côtés de l'Atlantique à voir toute cette violence policière, Elvira. C'était vraiment de l'horreur appliquée dans les rues.
Complètement, en fait, la violence policière est démoniaque. Il y a eu en quelques semaines, les Chiliens étaient sous le choc. Il y avait aucun Chilien de France. En tout cas, je parle de ceux que je connais autour de moi. Je vais pas m'étendre, mais ils dormaient plus. De voir les chars dans la rue, ça tirait au début, ça tirait à vue.
Les gens, ils étaient persécutés même chez eux.
Ah oui. Ah oui, complètement. Il y a eu des arrestations arbitraires dans tous les sens. Il y a eu des pendaisons, des viols dans les commissariats. Ah. Ils mettaient de l'acide dans les camions à eau, là, pour, comment on appelle ça, là, los sorillos. Le guanaco. On appelle au Chili le guanaco. C'est ce qui crache comme le lama qui crache de l'eau. El sorillo, c'est le gaz. Et en fait, ils mettent de l'acide dans l'eau, dans les canons à eau. Donc, il y avait des gens qui avaient la peau brûlée. Il y a eu des disparitions. Enfin, il y a eu de la torture dans les commissariats. C'était une répétition de l'histoire et ça a été un cauchemar éveillé pour toute la communauté chilienne.
C'est là que, qu'il est né, les groupes Las Tesis.
Oui.
Et c'est hymne féministe, il a envahi la planète, Elvira.
Complètement.
Et tout ça a forcé un peu la société chilienne à changer. C'était impossible de continuer les mêmes.
Il y a quelque chose dans l'état d'esprit de la société chilienne qui a été vu, qui a été mis en avant, qui a été enfin aussi médiatisé. C'est-à-dire que la réalité de la pauvreté, de la violence sociale et de la violence à tous les niveaux, tout est privatisé. Enfin voilà, même l'eau est privée là, au Chili. Enfin, tout ça a pu enfin être vu à l'international, mais ça n'a pas changé grand-chose sur la maltraitance d'État envers la population. Les médias ont traité ça, à part certains, à l'aspartame. C'était combien de fois on m'a dit « Oui, mais pourtant c'est en démocratie, mais pourtant vous avez eu Michelle Bachelet, c'était une femme, fille de général assassinée, enfin fille de militaire fidèle à Allende qui a été au pouvoir. » Enfin, il y a beaucoup d'incrédulité ici, puisque le traitement médiatique a toujours un peu... alléger, saupoudrer. C'est-à-dire, toi, t'es très au courant parce que tu suis ça. Mais si on zoome pas dessus, on se rend pas compte. Il y a moins aujourd'hui parce que, à force, quand même, ça a couru aussi grâce au film, grâce à l'art, grâce à ces filles-là qui ont dénoncé les violences, entre autres policières, les violences sexuelles. Ça a été vraiment vu partout. Mais j'ai toujours trouvé que le traitement médiatique de ce qui se passe au Chili est léger. Je dois tout le temps dans les projections m'en justifier.
Je vois beaucoup sur les chaînes en France, dans les téléjournaux, on parle énormément de l'hémisphère nord. On parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, on parle, mais pas exactement de l'hémisphère sud et surtout des Amériques. Elvira, il y a tellement de choses qui se passent, mais l'attention, elle est toujours ciblée, elle est toujours choisie. Elle est là l'importance, justement, de faire ton travail, de continuer à mener, à dénoncer cette histoire qui est toujours vivante. Et on passe à ton troisième film, justement, El Patio. Et là, on parle des découvertes macabres, des découvertes horribles, de tout ce que, justement, les dossiers de la dictature ont essayé de cacher.
Oui, j'ai pas fait dans la gaieté. Et pourtant, en fait, mes trois films sont sur des personnes qui... J'ai aimé travailler avec elles parce que justement, elles étaient encore debout et avaient encore la capacité de rire et de vivre pleinement. C'est juste une parenthèse. Ce film-là, en fait, c'est en face de la tombe de Victor Jara, là où Hector a réussi à enterrer Victor Jara. Il est juste en face, en fait, du Patio 29. C'est un secteur, en fait, de terre tout au fond du plus grand cimetière de Santiago. Et en fait, j'ai été voir le directeur du cimetière et je lui ai dit, mais tous les disparus qui ont été enterrés dans ce Patio 29 et qui est très connu au Chili, c'est emblématique, puisqu'en fait, il y a eu des centaines de corps enterrés là. On ne sait pas si c'est 700, 800, 900, 1000, les chiffres bougent un peu, mais ils n'en ont retrouvé qu'une centaine, en fait, dans les années 90. Donc, ils ont été mis là, cachés là, puis après déplacés, du coup, disparus. J'ai été demandé au directeur du cimetière, mais qui les a enterrés, ces gens-là? Parce que moi, je pensais, entre guillemets, naïvement, que c'était les militaires. Il m'a dit non, ce sont les fossoyeurs du cimetière qui ont été obligés de le faire, mais je lui dis, ah, et ces gens-là, ils sont plus là. Il me dit, si, ils travaillent toujours ici. Donc, j'ai rencontré l'un d'eux, Lelo, Roberto Lelo, et il a accepté de me parler. Et je l'ai filmé. Ce film m'a pris... j'ai mis 5 ans à le faire. Au total, j'ai passé 5 mois et demi dans le cimetière. Et il y a eu 3 tournages à 3 saisons différentes. Parce que je ne pouvais pas lui faire faire tout d'un coup. C'était trop dur de revenir là-dessus. Et lui, un collègue à lui, Gilberto, son surnom c'est Perejil Persil. eux deux, en fait, racontent au plus jeune fossoyeur du cimetière, Sergio, qui est le plus jeune creuseur, en fait, de terre, de tombe, lui raconte ce qui s'est passé, en fait, à cette époque. Et donc, la façon dont ils ont été obligés de récupérer les cadavres, pareil, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les états possibles, où ils étaient avec la mitraillette dans le dos, en train de faire ce travail ignoble, en fait, d'avoir été les marionnettes de la dictature. Et puis après, le traumatisme, vivre avec, dans le silence et la peur. Jusqu'à transcender la peur, quoique, quand on a commencé le tournage, pourtant 40 ans après... ils ont reçu des menaces par téléphone. Si tu parles, il va t'arriver des choses. Donc, j'ai pas pu commencer le tournage immédiatement dans le cimetière, alors que j'avais écrit un huis clos dans le cimetière, parce qu'un film, on l'écrit, on cherche des financements en fonction. Et du coup, j'ai dû tourner quelques séquences en dehors du cimetière. Et ce qui a été très beau, c'est qu'à un moment, Lelo et Perejil m'ont dit « Écoute, en fait, on a réfléchi, ça fait 15 jours que tu nous filmes n'importe où dans la ville, là, enfin, parce que j'essayais de trouver des plans B, le musée de la mémoire des droits de l'homme, la rivière où ils avaient ramassé les cadavres, j'essayais de trouver des trucs pour reconstruire mon film autour du cimetière sans jamais y aller, parce qu'ils m'ont dit, si tu nous filmes au cimetière, il va nous arriver des noises, il faut pas qu'on nous voit.
Est-ce que tu as eu peur pour ta vie, à un moment donné, Elvira? Tu t'es sentie en danger?
Je me suis jamais permise, je pense que c'est vraiment le mot, je me suis jamais permise d'avoir peur au nom de quoi, qui, qu'est-ce, comment j'allais avoir peur à côté de ce que eux ont vécu. Est-ce que eux risquent? Je me suis effacée, je sais pas, je me suis mise en transparence, je suis devenue une caméra. je pense que psychologiquement, il était interdit d'avoir peur, c'est-à-dire que Il y a ce truc d'être née en France. Ma mère est française. Je suis née en France. Je suis allée au Chili la première fois quand j'avais 26 ans. Et je me suis pas permis dans la palette des émotions, sentiments, tout ça. Non. J'ai plus eu une inquiétude pour eux, mais je me suis dit, même s'il m'arrive un truc, ça va être de toute façon un bon point pour le Chili, parce que ça sera su, une Française, je suis Française, une Française s'est fait assassiner sur un film sur la dictature, allez-y.
Ton de toute engagement, façon, il allait
ben,
jusque-là.
De toute façon, s'il m'arrive un truc, ça va, au moins ça fera porter l'histoire partout. Donc, puis je suis... comme disait Hector, il m'a dit tu vas faire l'antenne en haut de la colline pour diffuser l'histoire. Donc j'ai pris cette posture. J'ai eu des craquages émotionnels, mais toute seule chez moi dans mon salon, des fois des mois plus tard, des semaines avant, mais avec eux pendant le tournage, je me suis interdit de même au rapport aux émotions et tout ça, je me suis vraiment interdit de mettre mon petit nombril en avant. C'est leur histoire. Comme je les ai jamais forcés à faire une séquence, je leur ai jamais volé un plan. C'était vraiment, on s'est mis d'accord pendant des heures de discussion avant sur le ton qu'ils voulaient donner. Par exemple, Hector, sur mon film précédent, m'avait dit, je veux être ni un héros, ni une victime. Je veux pas qu'on tombe dans ce piège. Donc, j'ai essayé de respecter ça. Donc, en fait, je me suis moulée à leur capacité de revenir sur cette histoire, de s'approcher de ce qu'ils auraient jamais voulu raconter s'il n'y avait pas eu le prétexte de la caméra et de la transmission pour le collectif.
Elvira Díez, sont 3 films documentaires. Y Volveré, Victor Jara et El Patio. Notre public des radios Languedoc qui nous écoute, il pourra encore te voir sur Montpellier, sur Nîmes. Comment ça se passe ton agenda, puisque tu participes des soirées, des débats, des tables rondes? Est-ce que tu as un agenda prévu là pour le mois d'octobre?
Alors là, il y a eu déjà plusieurs projections en septembre dans la région. Il y aura, alors j'ai pas encore les dates, c'est pas fixé, mais autour de la fin de l'année, il y aura fort probablement une projection à Paul Valéry, c'est en discussion. Donc je sais pas encore vraiment quel film, quel contexte, avec conférence, et là c'est en train de se voir avec des profs de la fac. Ça sera ouvert à tous. Donc là, pour savoir, en fait, il faut aller sur Facebook. J'ai une page pro Elvira Diaz. Sinon, chacun de mes films a aussi une page Facebook. J'ai aussi un site internet. Mais c'est plus sur Facebook où j'actualise les dates de projection et de rencontres. Et sinon, si ce qu'on va faire, et là, ça sera pas avec mes films, mais avec mon père. Enfin, là, c'est l'initiative de mon père. Le 18 octobre, c'est un mercredi, 18 octobre, là, donc, voilà, on est combien, là, dans
trois semaines ? On est les deux, oui, oui.
Ouais, même pas. Mm-hmm. À la brasserie Le Dôme, en fait, en bas de l'avenue Georges Clémenceau, au croisement Gambetta, il y a une brasserie, et on l'a déjà fait une dizaine de fois là-bas. On va faire une soirée pour fêter les 4 ans, en fait, de l'Estaïde, de la révolte sociale, justement, dont je parlais tout à l'heure, avec le ticket de métro et cette explosion-là. On va faire une fête, mon père veut l'appeler la fiesta del perro, la fête du chien, parce qu'il y avait un chien emblématique qui suivait tous les étudiants pendant les manifestations, un chien noir avec son bandana rouge, et il n'attaquait que les flics. Du coup, ce chien a été emblématique de cette révolte. C'est, on l'appelle le matapac ou le tuflic. Du coup, mon père a voulu appeler ça la fête du chien. Donc, on va plutôt festoyer la vie, la niaque et l'envie de bien vivre de ces gens-là plutôt que de tout le temps pleurer, quoi.
Et au Chili, tu as été invitée également, Elvira, pour faire des projections, pour présenter ton travail chez eux, chez ta famille.
Alors, mes films ont déjà beaucoup circulé au Chili, les trois films. Le plus beau cadeau que j'ai découvert, c'est qu'ils sont piratés et vendus sous le manteau dans la rue. Ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est chouette parce que ça montre que la mémoire circule sous le manteau encore. Et bon, mais au-delà de sous le manteau, ils circulent en ce moment beaucoup parce qu'il y a par exemple Hector, qui est donc le protagoniste de la personne qui a enterré Victor Jara. Il est au Chili en ce moment, il vit en France, mais là il est au Chili et il fait une tournée incroyable, il est invité partout. Et le film que j'ai fait avec lui vient d'être montré au stade Victor Jara, là où il a été assassiné, donc avec des concerts, tout ça. Il a été montré aussi à l'état civil où il a été travaillé. On lui a remis une plaque d'honneur et de remerciement pour son travail pour la mémoire et les droits de l'homme. Mes films aussi sont aussi au musée de la mémoire et des droits de l'homme, donc qui me soutiennent beaucoup pour faire circuler mes films parce que je suis loin, je vis ici. Et là récemment, il y a une association d'anciens prisonniers politiques qui m'ont demandé mes films aussi pour qu'ils soient dans la vidéothèque permanente de la Via Grimaldi, qui est un des plus grands, il n'y a pas de pire, tout est pire, mais d'ancien centre de détention et de torture dans Santiago. Enfin bref, de toute façon, ça tourne. Et là, Hector est en train de... Il circule avec le film et voilà, cette histoire fait partie de tout le mouvement de commémoration et de mémoire, de lutte contre l'oubli, quoi.
Elvira Diaz, on arrive à la fin de ces plateaux. On te remercie énormément pour ces 50 minutes de grande émotion. Mais pour clôturer, est-ce que tu as en vue la réalisation d'un nouveau projet ?
Alors, j'avais commencé un projet passionnant, incroyable, hyper intéressant, et j'avais déjà tourné une quinzaine d'heures, et là, avec le Covid, en fait, les fermetures des frontières ici, fermeture des frontières là-bas, le système de production qu'on avait mis en route aussi est tombé, et puis le film a complètement changé de direction avec l'Estallido. Mais en fait, c'était un film sur Juan Saravia, qui est en fait le leader de la commission Funa. Je vous invite à aller regarder ce que faisait. Là, ils ont arrêté depuis l'Estaïdo parce que ça aurait été trop dangereux. C'était il continue. Hein. C'était un chasseur d'agents de la junte. Il les cherchait, ceux qui se cachaient dans la société, pour les démasquer et les retrouver. Donc c'était là-dessus, sauf qu'à partir du moment où il y a eu la révolte sociale, il a plus pu trop faire ça parce que sinon, là, la population est tellement en colère que ça va être des assassinats en plein jour, ça va être, enfin voilà, ça va être c'était trop, ils pouvaient plus assumer d'être à la tête d'une telle violence, parce qu'ils contenaient la violence pour pas se comporter comme eux. Et là, je vous invite à aller vraiment voir, il a monté entre-temps, c'est un activiste passionné, hyper intéressant, et avec son épouse et puis des amis, une chaîne qui s'appelle Muros y Resistencia, des murs et de la résistance. Muros y Resistencia. Allez voir, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui est tout le temps en première ligne des manifestations, et plutôt que de lire Le Monde, c'est bien de temps en temps d'aller voir la réalité sur le terrain. Voilà, ça fait partie des gens qu'on a soutenus quand on a fait nos soirées ici.
Merci, et voilà. Ouvire Dios, muchas gracias por todas aquelas informaciones.
Merci, merci pour ton invitation.
Et cric et crac, notre premier journal UA sur la dictature militaire au Chili et Zacabat. Merci encore à Elvira Diaz pour toutes aquelles informations, pour l'émotion aussi, au moment de ce plateau. Merci à Lucas Dulac pour la technique de trio. Et merci à vous autres, le public de Radio Languedoc, pour l'écoute vostro. Nos pudesse tornar a trobar em podcast suicide www.radiolingodó.com. Per demain, encaro em plateu Força Social aqui de Mancapaz, Rádio Lingodó. Um abraçado a todos e a demain, brave mundo.